Bonsoir à chacun. Alors, j'ai changé un peu le titre. Ça sera pas sagesse pour ma vie communautaire, mais sagesse pour ma vie avec mes semblables. Puisque dans les proverbes, donc, il ne nous est pas parlé d'assemblée, donc on ne va pas parler pour la sagesse de l'assemblée, mais tous ces principes de vie qu'on va voir, tous ces exemples qui nous sont donnés pour notre vie de tous les jours, eh bien, c'est des choses qui sont aussi exactement applicables dans la vie d'assemblée. En préambule, je dirais que c'est vrai peut-être qu'à 20 ans, il y a certains de ces proverbes qui nous paraissent peut-être un peu durs ou peut-être pas forcément bien valables, parce qu'il y a certaines choses, par exemple, ce que tu nous as dit, ne mets pas trop souvent le pied dans la maison de ton voisin. À 20 ans, on a peut-être de la peine à le comprendre. Arrivé à 60 ans, c'est vrai qu'il y a bien des proverbes qu'on a expérimentés négativement soi-même ou qu'on a vu de la part d'autres personnes qui ont été accomplies par d'autres personnes. Et c'est vrai que je pense qu'à 20 ans ou à 60 ans, on ne lit pas tout à fait le livre des proverbes de la même manière, puisque nos expériences de vie font qu'on voit bien qu'au cours de notre vie, ce qu'à 20 ans, on pensait pas possible, eh bien, en apprenant à se connaître, en apprenant à connaître la nature de l'homme, eh bien, on se rend compte que tout ce qui est dit dans les proverbes, eh bien, c'est la réalité de la vie de tous les jours. Je m'excuse peut-être qu'une ou deux fois, je vais recouper avec des versets qui ont été dits dans les réunions précédentes, puisque parfois, il y a quand même des choses qui se recoupent. Et puis, j'ai établi un certain ordre dans ma présentation. Alors, c'est un petit peu comme les proverbes. Peut-être parfois, on va sauter peut-être un peu du coq à l'âne. Je n'ai pas très bien su exactement comment faire l'ordre de ma présentation. Nous commencerons par lire au chapitre 6, les versets 16 à 19. Alors, proverbe 6. Versets 16 à 19. L'Éternel est ces six choses, et il y en a sept qui sont en abomination à son âme. Les yeux hautains, la langue fausse, et les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui machine des projets d'iniquité, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème des querelles entre des frères. Eh bien, si on peut ce paragraphe qu'on va passer en revue en traitant différents points. Alors, déjà rien qu'en lisant ça, eh bien, on s'aperçoit que le constat qui est fait de la nature humaine ici, de ce que l'homme est capable de faire, n'est pas forcément glorieux. Et on sait, après que l'on a un peu de vécu dans notre vie, eh bien, que ce sont des choses qui sont tout à fait de la vie de tous les jours, hein? Les yeux hautains, l'orgueil, la langue fausse, le mensonge, les mains qui versent le sang innocent, la violence, le cœur qui machine des projets d'iniquité, donc des machinations, des querelles, les pieds qui sortent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges et celui qui sème des querelles entre les frères. Donc c'est toutes des choses qui malheureusement existent dans la vie de tous les jours et pour lesquelles on est mis en garde dans ces proverbes. On commencera par la sagesse, la maîtrise de soi. Alors, j'ai écrit les versets avec leurs références. En général, j'ai pris la version Darby une ou deux fois, j'ai pris une version en français fondamental. Mais en général, c'est la version Darby. La sagesse de l'homme le rend lent à la colère, et sa gloire, c'est de passer par-dessus la transgression. Et ça, c'est 19, verset 11. Alors, nous allons prendre l'exemple d'une personne qui a su réaliser cela, et c'est David. Nous lisons dans 1 Samuel 20. Et au verset 31. Et c'est Saül qui parle à son fils, « Car tous les jours que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, tu ne seras pas établi, ni toi, ni ton règne. Et maintenant, envoie et amène-le-moi, car il mourra certainement. » Donc, on voit là le désir de Saül de faire mourir David. Et puis on lit juste un peu plus loin au chapitre 24, et ça David le savait, au chapitre 24, on lit au verset 7. Et il dit à ses hommes, « Loin de moi de par l'Éternel, que je fasse une telle chose à mon Seigneur, à loin de l'Éternel, que d'étendre ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Donc on voit là que David, il a su passer par-dessus cette violence que Saül, cette violence et cette jalousie que Saül avait envers lui, Saül qui voulait le mettre à mort. Et on voit que David, dans ce cas-là, a très bien réagi. Alors pour nous, qu'en est-il? Est-ce que quand quelqu'un nous a peut-être calomniés ou nous vaut du mal, est-ce qu'on dit, eh bien, écoute, on pense à nous-mêmes, ben, je t'attends au contour, et puis je vais bien m'arranger pour te rendre la monnaie de ta pièce. C'est peut-être quand même souvent la première chose qui nous vient à l'esprit quand quelqu'un fait une fausse accusation contre nous ou nous fait des entourloupettes. Eh bien, peut-être la première chose que nous aimerions faire, c'est de lui montrer de quel bois nous nous chauffons, de lui montrer que, eh bien, il nous aura pas comme ça. Eh bien, non, là, on voit que c'est de passer, donc la sagesse de l'homme, c'est de passer par-dessus la transgression. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être terriblement difficile à faire, parce que tout au long de ces versets qu'on va voir, et on l'a vu l'autre dimanche avec Douglas, l'orgueil, c'est quand même toujours quelque chose qui est terriblement fiché en nous. On peut faire comme on veut, mais l'orgueil, notre propre moi, c'est toujours ça qui, souvent, au début, nous fait réagir par rapport à une attaque, par rapport à quelque chose qui est contre nous. Et là, on voit la sagesse de David dans cette occasion-là. On va voir juste après que David, il n'a pas été toujours sage. Et pour nous, eh bien, je pense que c'est exactement la même chose. Dans certaines occasions, eh bien, nous avons probablement réagi avec sagesse, avec maturité. Et puis, dans d'autres occasions, eh bien, nous nous laissons emporter. Nous n'avons pas forcément la bonne solution. Et nous lisons à présent donc, la conduite de la vie. « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sûreté. » Mais celui qui pervertit ses voies sera connu. C'est le chapitre 10, au verset 9. Et heureux l'homme qui est constamment sur ses gardes, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Et c'est 28, 14. Et là, nous lisons de nouveau sur David, mais cette fois-là, ce n'est pas la même situation, la même sortie pour lui. David, 2 Samuel 12, verset 14. On connaît tous l'histoire de Bathsheba, hein? Et quand il est dit que celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur, dans 2 Samuel 12, verset 14, et on connaît bien cette histoire, je ne vais pas la résumer, mais quand Nathan l'a repris, et au verset 12 de 2 Samuel, au chapitre 12, verset 14, il nous est dit, « Toutefois, par cette chose, tu as donné occasion aux ennemis de l'Éternel de blasphémer, le fils qui t'est né mourra certainement. » Donc, les conséquences de ce que David a perverti ses voies à un moment donné et de ce qu'il a endurci son cœur, il tombera dans le malheur. Donc, on voit l'issue de cette conduite. Et on voit que pour la même personne, pour David, eh bien, dans une foi, il a réagi tout à fait positivement. Il a eu la bonne sagesse, on dira. Et puis, pour une autre foi, eh bien, il a manqué. Et ça, je pense, c'est ce qui nous caractérise tous dans notre vie de foi. Il y a des périodes peut-être où nous sommes plus en communion avec notre Sauveur, avec notre Seigneur. Nous l'écoutons peut-être plus. Nous sommes plus disposés à suivre ce que la parole nous dit. Et parfois, eh bien, dans d'autres cas, eh bien, nous chutons, nous avons des moments de faiblesse. Alors aussi, par rapport au moment de faiblesse, eh bien, je crois que, surtout, ce qu'il faut se rappeler, s'il y a des moments de faiblesse, il faut reconnaître sa faiblesse, et puis surtout, eh bien, savoir que si nous la confessons, elle est pardonnée. Et tout au long de ces différents proverbes que l'on va voir, si parfois, eh bien, on sait que l'on n'a pas fait comme l'on aurait dû, Rappelons-nous toujours que nous avons l'immense privilège de servir un Dieu qui pardonne si nous confessons. À présent, je vais parler juste quelques mots de choses négatives qui nous empêchent de vivre en accord avec les autres. Alors, on va lire Proverbe 30, verset 17. Proverbe 30, 17. L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers la mère, les corbeaux du torrent le crèveront et les petits de l'aigle le dévoreront. Le respect. Honore ton père et ta mère, le respect de ses parents. C'est une condition pour que nous puissions vivre en accord avec les autres. Parce que si nous ne respectons pas nos parents, comment allons-nous respecter ceux qui nous entourent? Comment nous allons respecter ceux que l'on côtoie, que cela soit dans la vie de tous les jours, nos voisins, que cela soit nos collègues de travail, notre employeur, nos employés? Si le respect n'est même pas là pour nos parents, comment en aurons-nous pour les autres? Et on voit qu'il est dit que les corbeaux du terrain le crèveront et les petits de l'aigle le dévoreront. Donc ça veut dire que l'œil crevé, c'est l'œil qui est aveuglé, c'est l'œil qui ne voit plus. Et s'il n'y a pas ce respect pour les parents, et je crois que tous ceux qu'on est ici ce soir, on peut dire qu'on pouvait avoir du respect, on a pu avoir du respect pour nos parents. C'est vrai peut-être que certaines personnes n'ont pas le privilège d'avoir des parents, s'ils ne sont pas chrétiens, des parents qui sont des gens honnêtes et respectables. Ça peut arriver qu'il y ait des parents envers lesquels on aurait de la peine à avoir du respect, mais pour chacun d'entre nous qu'on est là ce soir, je crois que le respect envers nos parents, eh bien, on a dû l'avoir. Et après, si on a du respect pour ses parents, eh bien, si on a pris le respect à la maison, on va apprendre le respect envers les autres. Et c'est important d'avoir ce respect les uns envers les autres, parce que s'il n'existe pas, eh bien, c'est difficile de vivre avec les autres. Si on méprise tout le monde, si on se met au-dessus des autres, eh bien, comment vivre en accord et en harmonie avec eux? Ce n'est pas possible. Le respect est quelque chose d'important dans la vie avec les autres. Et on a simplement, j'ai relevé Cam dans la Genèse qui a vu son père nu et les conséquences, parce qu'il l'a rapporté à ses frères, et bien les conséquences, c'est qu'il est devenu esclave. Donc on voit là que Cam avait fauté et il y a eu des conséquences désastreuses pour lui. Et puis je lirai encore un verset dans 1 Timothée 5, verset 1. Timothée 5, verset 1, « Ne reprends pas rudement l'homme âgé, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves. » Donc, on voit ici qu'on est appelé à avoir des contacts avec du respect, garder, on pourrait dire aussi garder les formes, hein, si les formes de politesse, les formes ont été faites pour nos rapports les uns avec les autres, c'est important de garder dans la vérité, mais de garder ces différentes formes sociales, ces différentes formes aussi de politesse les uns vers les autres. Si on est chrétien, si on est frère et sœur, c'est encore d'autant plus important d'avoir du respect dans nos relations les uns avec les autres, savoir se respecter. Et si le respect n'est pas quelque chose qui fait partie intégrante de nos vies, le respect des autres, eh bien, nous ne pourrons pas vivre dans la sagesse les uns avec les autres. C'est une condition importante. Il y a des choses qui aussi font que l'on peut, qui sont difficiles, que nous ayons des rapports avec les autres. Et là, je vais parler des, parce qu'il en est parlé hein, dans les proverbes, je crois qu'il faut les prendre dans leur intégralité. Je n'ai pas tout pris, mais je pense que c'est important, c'est les excès puis les dépendances. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'excès, de dépendances. Dans les proverbes, il nous est parlé juste de l'ivrognerie et des orgies. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup plus de dépendance. Et quelqu'un qui aurait des dépendances à cette ivrognerie, aux orgies, c'est-à-dire à ne pas arriver à régler son comportement dans certaines occasions, eh bien, ça permet qu'il y ait des difficultés relationnelles après. Il nous est dit, le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse, et quiconque s'y égare n'est pas sage. C'est Proverbe 20, verset 1. Donc, on voit que pour aussi avoir des bons contacts les uns avec les autres, cela exige aussi une certaine sobriété. Il ne faut pas une dépendance de... quelle qu'elle soit, hein, parce qu'aujourd'hui, on parle de dépendance à Internet, il y a énormément de dépendance, il y a énormément des choses desquelles on peut dépendre et qui empêchent qu'on ait des bons rapports les uns avec les autres. Et puis, ne croyons pas que les dépendances sont l'apanage de la jeunesse. Vous connaissez l'histoire de Noé. Donc, c'est pas 20 ans qu'il a eu des soucis avec l'alcool. Lot, c'est aussi à un âge avancé qu'il a eu des soucis avec le vin. Donc, rappelons-nous, le danger des dépendances, et celui-là n'est pas que pour les jeunes, mais aussi à tout âge. Et puis, un autre verset par rapport à ces dépendances, donc, « Ni à ceux qui gouvernent d'aimer les boissons enivrantes. » Ceux qui gouvernent, et c'est Proverbe 31, verset 4. On a étudié le livre d'Esther ici. On sait qu'Assuérus, il était parlé que quand son cœur était gai par le vin, eh bien, on va dire ça vulgairement, qu'il a voulu exhiber sa femme, et on sait tout ce qui en a résulté. Donc, pour avoir une vie de relation avec les autres, une vie équilibrée, une vie complète, attention à ces choses qui peuvent nous donner des comportements extravagants, des comportements qui font que l'on est un peu, qu'on est mis de côté et qu'on ne peut pas avoir des bonnes relations. À présent, des choses plus positives, mais des choses qui ont aussi des dangers. 1 Pierre 4, verset 9 nous dit « Soyez hospitaliers les uns envers les autres sans murmure. » Et il y a ce verset qui, de Proverbe 25, verset 17, qui dit « Mets rarement ton pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. » On doit être hospitalier, mais il ne faut pas mettre trop souvent le pied dans la maison de son voisin. Quelques commentaires par rapport à cela. C'est vrai que à 20 ans, si l'on vous dit ça, bien vous dites, ouais, bon, ben, hein, qu'est-ce que je risque? Mais on voit que on peut, je vais employer un terme qui va bon, mais on peut fatiguer la personne chez qui on va. On peut aussi se sentir à l'aise, se sentir chez soi, une fois qu'il y a de l'habitude. On peut être intrusif. Donc, dans l'hospitalité, dans les rapports d'invitation que l'on a à avoir les uns avec les autres, eh bien, il faut aussi de la sagesse. Et puis, il y a aussi un grand danger quand l'on se voit souvent. Peut-être que je l'ai déjà dit une fois ici, mais c'est vrai que quand vous voyez une famille une fois par année, les personnes de notre âge, on parle de nos parents, de nos petits-enfants, et puis après deux, trois sujets de conversation, et puis on se quitte. Si on se voit souvent, les bons sujets, les sujets positifs vont être épuisés, et puis rapidement, on a tendance peut-être à passer à la critique. Et on doit faire très attention dans ces rapports un peu plus proches que l'on peut avoir dans l'hospitalité, de demander que nos conversations, nos sujets de conversation soient sous contrôle, que nous nous gardions de la critique. Plus des personnes se voient, je pense que plus c'est difficile de rester dans des sujets constructifs. Il y a un danger ici. Et puis, comme je l'ai dit, donc faire attention de ne pas être intrusif, de ne pas exagérer dans les contacts que nous pouvons avoir. Mais par contre, l'hospitalité est quelque chose qui est désiré, quelque chose qui est positif. Mais il y a aussi quelques dangers. Les cadeaux. Il est parlé aussi des cadeaux dans les proverbes, de la générosité. Un don fait en secret apaise la colère et un présent mis dans le sein calme une violente fureur. C'est 19, verset 16, ou 14 ou 16. C'est vrai qu'il y a des cadeaux qui font plaisir, des cadeaux qui sont donnés par amour, qui sont faits en toute bonne conscience, des cadeaux qui peuvent apaiser, comme il est dit ici, apaiser la colère. Peut-être qu'il y a eu une petite dissension, et puis après, avec une demande de pardon, un contact qui a été refait, eh bien, un petit cadeau, un don qui est fait pour apaiser la colère et un présent mis dans le sein calme la fureur. Mais un présent qui est mis dans le sein, c'est un cadeau qui, je pense, qui est donné où les deux personnes simplement sont concernées. Parce qu'il y a aussi le problème avec les cadeaux, c'est qu'on aurait des fois tendance à faire des cadeaux et à les comparer avec ceux que les autres font. Et là, ce n'est plus quelque chose de positif. Hein, on peut par exemple mettre des... C'est tout bête, mais on peut apporter des cadeaux à un anniversaire, un mariage, et puis regarder un peu ce qu'il y a, puis se dire, ouais, ben le mien, il est quand même un peu plus important, il est quand même un peu plus... Il a un peu plus de valeur. Et puis, il y a aussi ce problème du cadeau qui est fait pour obtenir quelque chose. Et le Proverbe 18:16 nous dit, « Le don d'un homme lui fait faire place... » et l'introduit devant les grands. C'est Proverbe 18:16. Et on sait que Aman a pesé, donc dans le livre d'Esther, je reviens à ce livre d'Esther, Aman a pesé 10 000 talents d'argent pour les donner au roi, quand il a parlé de ce peuple qu'il voulait, qu'il pouvait avoir pour pouvoir mettre à mort. Et on voit qu'il y a des fois des cadeaux qui sont faits pour obtenir quelque chose, et c'est vrai qu'il y a aussi des cadeaux des fois qui sont faits pour obtenir la faveur des puissants. Je pense que, bon, aujourd'hui, on ne connaît plus tellement la royauté, mais je pense qu'à l'époque, quand il y avait la cour et tout, c'était de bon augure d'apporter un gros présent au roi ou au prince pour se faire bien voir, pour avoir une certaine notoriété. Par contre, la générosité est importante. Et ça, c'est magnifique parce que quand on parle que l'Éternel possède tout et a tout, qui use de grâce envers le pauvre, prête à l'Éternel et lui rendra son bienfait. Est-ce que vous vous rendez compte? On prête à celui qui a tout. Et c'est magnifique ce verset de « Qui use de grâce envers le pauvre, prête à l'Éternel et lui rendra son bienfait. » Et il y a d'autres versets par rapport à la générosité qui nous disent que eh bien, celui qui donne s'enrichit alors que celui qui amasse s'appauvrit. Donc la générosité, les uns envers les autres, quelque chose qui... est positif, et je trouve que c'est magnifique qu'il prête à l'Éternel, alors que c'est à lui que sont toutes choses, et que ce verset soit cité comme ça, qu'il prête à l'Éternel celui qui donne aux pauvres et lui rendra son bienfait, et bien que ça nous encourage à la générosité. Et c'est vrai que, et bien dans les rapports les uns avec les autres, la générosité est aussi quelque chose d'important. Dans les rapports que nous avons avec nos semblables, il y a des personnes qui ont des responsabilités, des personnes qui ont de l'autorité, qui doivent exercer l'autorité. Et il y a des versets qui nous mettent en garde là-dessus aussi. Les projets échouent là où il n'y a pas de conseil, mais par la multitude des conseillers, ils réussissent. C'est Proverbe 15:22. Et un roi assure la prospérité à son pays lorsqu'il respecte le droit, mais s'il lève des impôts abusifs, il le ruine. C'est Proverbe 29:4. Donc ici, celui qui doit exercer l'autorité, celui qui a des responsabilités, eh bien, il doit le faire avec respect, avec le droit. Il ne doit pas profiter de sa position d'autorité, de responsable, d'employeur. Il ne doit pas profiter de sa position pour, là, il est dit, s'il est des impôts abusifs, mais pour s'enrichir abusivement, pour exagérer dans ses marges, dans ce qu'il peut se mettre pour lui. Et puis aussi, eh bien, il est parlé la multitude des conseillers. Donc, c'est vrai, on a beau peut-être avoir, il y en a qui ont des places de responsabilité, d'autorité, eh bien, savoir s'entourer de conseillers, savoir demander conseil. Je crois qu'il y a un proverbe qui dit qu'on est, pas dans les proverbes bibliques, mais du monde, qui dit qu'on n'est jamais sage tout seul ou quelque chose de ce genre-là. J'entends que le conseil est quelque chose d'important. Et quand on a des décisions à prendre, eh bien, c'est important de savoir demander conseil. Parce que c'est vrai que si, personnellement, vous avez une idée de quelque chose, d'un projet, eh bien, vous allez voir souvent que les côtés qui vous arrangent, que les côtés positifs. Et puis, c'est important de savoir demander un conseil à quelqu'un qui vous dira « Mais est-ce que tu as pensé à ceci ou à cela ?» Et quand on a de l'autorité ou des responsabilités, c'est important aussi de bien savoir s'entourer, de conseiller. Ce n'est pas moi qui le dis, ça, c'est les proverbes. Il y a le travail aussi. Il nous a parlé du travail. Et ça, c'est aussi des relations qu'on a ben, tous les jours, hein, pour ceux qui sont encore dans la vie active. Alors, celui qui garde son serviteur dès sa jeunesse le verra fils à la fin. C'est Proverbe 29-21. Certaines traductions le traduisent par fils à la... mettre fainéant à la place de fils. Donc, on voit que, bien malgré tout, et je pense spécialement si nous sommes chrétiens, eh bien, il y a quand même des positions à garder. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi dans notre travail. Chacun a ses propres responsabilités. Chacun doit tenir sa place. Et j'aimerais lire 1 Timothée 6, versets 1 et 2. Timothée 6, versets 1 et 2. « Que tous les esclaves qui sont sous le joug estiment leur propre maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des maîtres croyants ne les méprisent pas parce qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant plus que ceux qui profitent de leur bon et prompt service sont des fidèles et des bien-aimés. » Je pense aussi à Onésime où Paul dit à Philémon, eh bien, tiens-le comme pour un frère, mais il ne lui a pas dit de l'affranchir. Donc Philémon a gardé sa place de serviteur, mais c'était un serviteur qui devait être traité comme un frère. Donc, gardons ces rapports de travail à leur juste place, et on voit que celui qui garde son serviteur dès sa jeunesse le verra fils à la fin. Ceux qui ont eu l'expérience un peu d'avoir que ce soit des apprentis ou des personnes sous leurs ordres, et surtout aujourd'hui où, c'est Nata qui me disait une fois, hein, les apprentis arrivent et vous tutoient tout de suite. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Et dans le monde du travail, pour que les bons rapports puissent exister, eh bien, il y a aussi d'y avoir des barrières qui doivent être posées et qui doivent être gardées des deux côtés. Et puis, je pense un peu, bon, il n'était pas serviteur, mais le fils prodigue, à qui le père a tout donné, qu'il a sûrement aussi laissé faire, eh bien, à la fin, il fait des reproches à son père. Donc, le frère qui est resté à la maison, auquel le père avait tout donné, avait, chaque fois qu'il demandait quelque chose, avait peut-être laissé, on dira, la bride sur le cou, eh bien, à la fin, on voit qu'il fait des reproches à son père. Et puis, celui qui soigne le figuier mange de son fruit, et celui qui veille sur son maître sera honoré. C'est Proverbe 27-18. Donc, on voit que celui qui fait son travail, hein, celui qui soigne le figuier, eh bien, il sera nourri de son fruit, hein, mange de son fruit, sera nourri de son travail. Et puis, celui qui veille sur son maître sera honoré. Les bons serviteurs seront honorés. Et c'est des versets qui sont encourageants quand on est dans le monde du travail, de savoir eh bien, que, première chose, eh bien, il y a des rapports de service qui sont établis, qui doivent être maintenus. Et puis, que si on est un ouvrier, qu'on est un ouvrier soigneux, eh bien, on sera honoré de la part de son maître. C'est des choses de la vie de tous les jours et c'est... Dans ces rapports, les uns avec les autres, nous avons besoin de la sagesse aussi dans le monde du travail. Et puis, quelque chose qui est important aussi pour nous garder dans les rapports les uns avec les autres, eh bien, c'est l'activité. Il est dit que l'activité est un bien précieux, c'est quelque chose d'important. On dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. On sait que... On a parlé de David avant, on sait que ce n'est pas au travail qu'il a eu ses tentations. Ce n'était pas quand il aurait dû être à la guerre, hein, c'est quand il était chez lui à rien faire. Donc, l'activité garde de bien des maux. Et il y a un verset qui nous donne un peu cela dans Proverbe 27-25, qui nous dit « Coupe l'herbe des champs, et pendant que l'herbe nouvelle pousse, ramasse le foin sur les montagnes, ou l'herbe nouvelle pousse, le regain ». Ça veut dire qu'il y a une coupe qui se fait en attendant la seconde, il y a celle qui peut se faire dans les montagnes, donc une continuité dans le travail, un sérieux, une suite dans le travail qui est importante. Et puis, aussi dans Proverbe, et puis Proverbe 6-6, on pourrait lire, Proverbe 6 au verset 6. Va vers la fourmi paresseuse, regarde ses voies et sois sage. Elle qui n'a ni chef, ni surveillant, ni gouverneur, elle prépare en été son pain, elle amasse pendant la moisson sa nourriture. Donc cet exemple, je crois que chaque fois que la parole nous donne un exemple de la nature, c'est vraiment important d'aller voir une fourmilière, ou quand il nous parle des brebis, quand il nous parle de la vigne, de vraiment se plonger dans cet exemple de la nature. Et si vous avez observé une fois une fourmilière, eh bien on voit qu'il n'y en a jamais point qui sont arrêtés. On voit qu'il y a de la solidarité. Si une a une trop grosse brindille, eh bien il y en a une autre qui viendra lui aider. Il y a une organisation, il y a du travail qui se fait. Et ça, je pense que c'est intéressant de savoir ce travail de la fourmi qui nous est dit, va vers la fourmi paresseux et puis sois sage. Donc regardez, peut-être juste une fois, étudiez ce que la fourmi fait. Quand des exemples de la nature nous sont donnés, c'est important parce que personne ne peut dire qu'il ne comprend pas ces exemples. Il suffit d'aller les observer et puis après on peut les mettre en pratique. Il y a encore une chose qui nous est donnée dans ces différents proverbes qui sont donnés pour la vie de tous les jours. L'homme fidèle abonde en bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne demeurera pas innocent. C'est Proverbe 28:20. La fausse balance est une abomination à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. C'est 11, verset 1. Mieux vaut peu avec justice que beaucoup de revenus sans ce qui est juste. 16, verset 8. Vous allez me dire qu'on est tous foncièrement honnêtes. On n'a aucun souci avec l'honnêteté. Ben moi, je vais vous donner un petit exemple. C'est vrai qu'on ne va pas maquiller la balance parce que ça, c'est quand même pas quelque chose qu'on va faire, c'est un peu trop gros. Mais si j'ai une vache qui a un petit défaut, que je connais très bien, mais qui ne soit pas, et puis que je l'avale comme ça, garantie 100%. Est-ce que je suis honnête? Si j'ai une voiture qui a aussi un défaut qui revient régulièrement, et puis que je me dis, je ne vais pas la refaire vendre à mon garagiste, je vais la mettre sur Internet, et puis celui qui l'achètera ne va pas le voir. Et je ne sais pas si vous avez vu, c'est dernièrement, dans le Louis-Pierre, il y avait toutes les manières de, je ne sais plus comment c'était dit, mais les photocopies au travail, les cartouches d'encre, enfin, il y a tellement de choses que si l'on réfléchit puis qu'on dit au Seigneur, mais est-ce que tu es d'accord là avec ce que je fais, ou est-ce que je suis dans le juste, ou bien est-ce que je suis déjà à la limite? C'est vrai qu'on va pas, on n'est pas des gens qu'on a appris à voler, on ne va pas voler, mais il y a tellement de petites tentations qui sont là pour qu'on tombe dedans. Et puis, il y a quelqu'un, c'est vrai qu'on est gardé, mais il y a quelqu'un quand même qui aime bien nous insuffler des petits doutes ou des petits « mais écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, tout le monde le fait. Hein? » Alors, rappelons-nous, l'honnêteté devant Dieu est quelque chose d'important. L'homme fidèle abonde en bénédiction, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne demeurera pas innocent. Et puis, la fausse balance est une abomination. Donc, ça aussi, si on fait des choses fausses par rapport à ce qu'on commerce, etc., eh bien, c'est une abomination. Et ça, c'est un terme qui est grave. Et puis, par rapport à l'honnêteté, par rapport à l'avarice, eh bien, on peut lire, c'est 1 Timothée 6:6 qui nous dit, « La piété et le contentement sont un grand gain. » Savoir être content de ce que l'on a, savoir se satisfaire de ce que Dieu nous accorde. Et puis, chez nous, eh bien, on a beaucoup, hein, par rapport à d'autres pays, je crois qu'on peut être vraiment reconnaissant de tous les privilèges qui nous sont accordés. Donc, l'honnêteté par rapport à nos rapports les uns avec les autres est importante. Je propose juste avant de prendre un autre titre, de chanter « Quel ami fidèle est-il ?» Les deux premiers versets, c'est le 72 ou 76. On peut se lever. C'est le 72, ça fait... Les deux premiers.
Quel ami
Voilà, on a chanté quelque chose de l'ami suprême. On va parler encore de l'amitié. Et on lira au chapitre 27. Les versets 5, 6 et 10 du chapitre 27. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. Les blessures faites par un ami sont fidèles, mais les baisers de celui qui hait sont fréquents. Verset 10. N'abandonne point ton ami ni l'ami de ton père, et n'entre pas la maison de ton frère au jour de ta calamité. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Proverbe 17:17 nous dit « L'ami aime en tout temps, et un frère est né pour la détresse, ou dans d'autres versions, et dans le malheur, il se montre un frère. » Donc l'amitié est quelque chose qui, dans les proverbes, a beaucoup d'importance, et je pense que dans nos vies aussi. Alors ici, il est parlé de l'amitié, mais ce qui est de l'amitié peut être aussi pris un exemple pour l'amour fraternel les uns avec les autres. Est-ce qu'on peut avoir des amitiés dans la vie? On peut avoir aussi par rapport à l'amour fraternel les uns vers les autres. Mais il faut choisir ses amis. Proverbe 18:24 nous dit « Celui qui a beaucoup de compagnons va se ruinant, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » C'est Proverbe 18:24. Et si on lit psaume 1, verset 1, qu'est-ce qu'il nous est dit? Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs. Choisir ses amitiés. Avoir des amitiés précieuses, des amitiés avec qui, des amis envers qui on peut avoir confiance et pas une multitude d'amis. On sait, le fils prodigue, eh bien, il a eu beaucoup d'amis un certain temps, après il n'en a plus. Savoir choisir ses amitiés, je pense que c'est très important pour les jeunes. Et puis, pas forcément en avoir beaucoup, mais avoir des amis qui comptent, des amis fidèles. Et puis aussi, eh bien, je pense que dans la vie, il y a certaines personnes avec qui on était amis dans notre jeunesse, et puis, ma foi, pour une raison ou une autre, eh bien, cette amitié, elle a toujours, elle, c'est pas qu'elle s'est cassée, mais on s'est écarté, puisqu'on a eu peut-être des chemins bien différents, on a peut-être changé d'endroit, et il y a eu des grandes amitiés qui ont existé, puis qui se sont arrêtées. Et puis, il y a de nouvelles amitiés qui se forment. Et puis, au niveau de l'amitié, bien, je pense qu'on peut prendre Jonathan et David en un bon exemple d'amitié. Et des amis qui se sont dit, qui se sont confiés et qui se sont aidés l'un l'autre. Et puis, par rapport à ça, c'est important ce verset aussi. « Celui qui rejette l'instruction méprise sa vie, mais celui qui écoute la répréhension acquiert du sens. » C'est 15:32, et puis mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. C'est 27:5. Donc l'amitié, ces rapports d'amitié doivent être des rapports vrais, des rapports où l'on ose se dire les choses en face, où l'on a aussi l'humilité d'accepter quand notre ami nous fait un reproche, nous fait une réprimande. Hein, c'est pas d'une réprimande, d'une répréhension. Et c'est comme ça que l'on peut avancer. Celui qui ne va pas écouter des critiques, alors on va dire des critiques positives. Hein. Si par exemple, je vais dans un endroit, pour donner un exemple, je vais dans un endroit avec un ami et que je ne me comporte pas tout à fait de la manière dont j'aurais dû, et puis qu'après il me dit, mais écoute, là-bas, ce que tu as fait, ce n'était peut-être pas tellement un témoignage, ce n'était peut-être pas trop ce que tu aurais dû faire, eh bien que j'ai l'humilité d'accepter, que j'ai l'humilité de reconnaître que ce qu'il me reproche, la réprimande qu'il me fait, quelque chose de positif. Donc, mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. Ça veut dire que, eh bien, c'est la même chose, je dirais, avec des enfants. Hein. Si vous les réprimandez, que vous les corrigez, ils vont progresser. Si vous leur laissez tout faire, que vous leur faites croire qu'ils sont toujours tout justes, ça ne veut pas tant bien aller. Donc, l'amitié est là aussi pour nous aider à faire des progrès dans notre vie de tous les jours. Elle est là, si on a des amis fidèles, eh bien, pour passer des, c'est vrai, pour faire des choses positives, pour passer des bons moments ensemble, mais aussi peut-être parfois pour se corriger. je dirais que l'amitié devrait se caractériser par la franchise. Voilà, j'en arrive gentiment à la conclusion. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que la vie de qu'est-ce que c'est que la sagesse dans ma vie de tous les jours? Eh bien, je la caractériserais comme ça. La sagesse dans ma vie de tous les jours, c'est de marcher par l'esprit et d'en porter le fruit. Et on va lire quelques versets, bien justement, qui nous parlent de ce fruit de l'esprit et qui sont des proverbes qui sont cités dans ce livre. Par rapport à l'amour, un ami montre son affection en toutes circonstances, un frère est là pour partager les difficultés. C'est 17-17. Donc on sait que l'amour est un fruit de l'esprit. La joie. Le cœur joyeux fait du bien à la santé, mais un esprit abattu dessèche les os. C'est Proverbe 17-22. Donc c'est vrai que si vous êtes joyeux, si vous êtes heureux, eh bien vous portez mieux que si vous êtes défaitiste et abattu. La paix. Mieux vaut manger en paix un crouton de pain sec que participer à un banquet dans une maison où l'on se dispute. C'est 17, verset 1. Donc la paix, de nouveau, on est dans les fruits de l'esprit. La bonté. Ce qui attire dans un homme, c'est sa bonté. C'est Proverbe 19, verset 22. Par rapport à la tempérance, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec du trouble. C'est 15, verset 6. La longanimité, la bienveillance, ça c'est accepter les erreurs des autres. Qui aime la querelle aime causer du tort. Qui fait l'important cherche sa ruine. Donc on voit que celui qui est querelleur, eh bien, ça crée du tort et ça amène la ruine. Mais qui est lent à la colère vaut mieux que l'homme fort, et qui gouverne son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. C'est 16-32. Et puis la douceur. La sagesse de l'homme le rend lent à la colère, et sa gloire est de passer par-dessus la transgression. Donc lent à la colère et savoir passer par-dessus la transgression, c'est ce qu'on a lu de David tout au début. Et c'est 19, verset 11. Et puis la fidélité, qui est aussi un fruit de l'esprit. L'ami aime en tout temps, et un frère est né pour la détresse. 17-17. Donc on voit que pour chacun, pour cet entier du fruit de l'esprit, eh bien on trouve un verset qui nous en rappelle quelque chose. Et puis j'aimerais encore lire deux versets, c'est 15-33 et 16-18, parce que finalement, c'est ce qui devrait nous caractériser, enfin c'est des versets qui sont très importants pour dans notre vie, les uns avec les autres, qui sont nécessaires et qu'il est bon de les serrer dans son cœur, je pense, parce que c'est souvent avec cela qu'on a un problème. La crainte de l'Éternel est donc du verbe être, et la discipline de la sagesse et l'abaissement va devant la gloire. C'est 15-33. Et puis l'orgueil va devant la ruine et l'esprit hautain devant la chute. C'est 16-18. Et puis je lirai encore deux versets dans l'Épître aux Romains, parce que c'est des versets qui sont importants et on en a parlé là pour notre vie, les uns avec les autres, que cela soit notre vie professionnelle, notre vie avec ceux que nous côtoyons, nos voisins. Et puis c'est aussi important pour notre vie d'assemblée finalement, parce que notre vie de tous les jours, elle conditionne aussi notre vie d'assemblée. Romains 12, verset 18. Autant que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes. Et 14, verset 19. Ainsi donc, poursuivons les choses qui tendent à la paix et celles qui tendent à l'édification mutuelle. Donc voilà, on a vu ces différents points. Hein, je ne les ai pas tous tenus parce que c'est vrai qu'il y en a sûrement beaucoup d'autres auxquels vous aurez pensé. Alors la première chose que j'aimerais encore rappeler, c'est que dans tout ce que j'ai dit ce soir, eh bien, je pense que je suis la première personne concernée par ce qui a été dit. Je crois qu'on doit prendre cela chacun pour soi-même. C'est des versets qui nous parlent à nous et qui sont là pour nous aider à régler nos vies devant Dieu. Et puis j'aimerais aussi rappeler que si nous marchons par l'Esprit et que nous avons ce fruit de l'Esprit, eh bien, nous pouvons remplir ces différents caractères que nous avons vus et qui sont cités dans ce livre des Proverbes. Et encore une fois, eh bien, que tout ce que j'ai dit ce soir, la première personne concernée, c'est moi d'abord et chacun après, sait sur quel point il a encore des progrès à faire.